France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
C'est impossible d'avoir une vision totalement binaire de ce sujet. À froid comme ça, on peut tous dire qu'on ne veut pas aller au bout d'une maladie que l'on sait incurable. Moi, la première d'ailleurs. On peut tous dire qu'on préfère mourir avant d'en arriver à un certain degré d'incapacité. Et c'est d'ailleurs exactement là que l'on cesse d'être binaire. Vous voyez, il a suffi de deux phrases. Parce que avant, ça veut dire quoi? Et surtout, le avant n'est pas le même d'un patient à l'autre. C'est à ça que servent les lois. Il faut bien donner un cadre. En France, nous partions de loin. Et même de très loin. Ça fait combien? Ça fait des années. Ça fait déjà plus de 3 ans. Qu'on en discute d'ailleurs âprement, une convention citoyenne, on y reviendra, une loi qui ne va pas au bout pour cause de dissolution, et puis 2 lois séparées, soins palliatifs et fin de vie. Mais nous y sommes en l'état de discussion devant l'Assemblée, qui ne sont pas finies, mais qui ont approuvé, on va dire pour l'instant en tout cas, quelques passages clés. Les critères de l'aide à mourir, l'administration de la substance aussi qui va tuer, et c'est là qu'on fait un point d'étape pour bien comprendre ensemble. Sur l'administration de la substance, la règle c'est que le patient se l'administre seul. L'exception, c'est l'accompagnement, mais pas par un proche. Et bien sûr, nous y reviendrons, vous êtes nombreux sur ce sujet. Les critères de l'aide à mourir, il y en a 5 qui doivent être cumulatifs. Je vais en citer 2 principaux, on parlera évidemment des 3 autres. La personne doit être atteinte d'une infection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. La phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible, marqué par l'aggravation de l'état de santé qui affecte la qualité de vie. Pour être éligible, il faut aussi présenter une souffrance physique ou psychologique qui soit réfractaire au traitement ou insupportable selon la personne. J'ajoute que vous devrez dire, vous, que vous souhaitez mourir, ne comptez pas donc sur vos directives anticipées. Et là aussi, vous êtes nombreux à en parler. C'est là que nous en sommes. C'est aussi là que va commencer notre discussion. Que vous soyez médecin, infirmière, proche de malade, malade vous-même ou simple mortel, c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Olivier, vous êtes le premier. Soyez le bienvenu, Olivier. Bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à vos invités, aux auditeurs. Donc je vous appelle la question, vous y avez peut-être déjà répondu, mais j'ai eu un cancer compliqué donc il y a 15 ans, qui m'a laissé handicapé à plus de 80% et inapte au travail. Et j'ai des douleurs neuropathiques, donc qui viennent de ma tête, bien plus aiguës que mes douleurs physiques. Je vis sous antidépresseurs pour ne pas me suicider. Et je pense à des personnes qui ont des douleurs supérieures à moi. Par exemple, moi, si vous me touchez en fait du doigt mon tibia, c'est comme si vous me mettiez un coup de batte de baseball en fait. Je supporte aucun contact, même les vêtements. J'avais cru que la loi permettait seulement aux douleurs physiques d'être prises en compte. Et est-ce que vous pouvez confirmer donc que les douleurs neuropathiques, elles peuvent être prises en compte voilà.
Et alors, Olivier, pardon, mais je vais vous la poser la question. Est-ce que votre pronostic vital est engagé? Est-ce que vous êtes dans ce qu'on considère être une phase avancée? Vous en êtes où, en fait, de votre maladie?
Alors, en fait, moi, mon cancer, il est soigné, mais c'est les effets secondaires et tierces des traitements qui me laissent comme ça, dans un état, en fait, où j'ai aucun traitement qui peut pallier en fait à mes problèmes et la morphine en fait me permet juste, comme on m'a dit, de trouver un équilibre. C'est ça ou rien. Et quand j'ai plus de morphine, ce qui peut m'arriver par accident, en fait, la seule chose que je veux, c'est mourir tellement j'ai mal. Et voilà.
Olivier, merci beaucoup. On a une grosse pensée pour vous. Évidemment, des téléphones sonnent et des questions comme ça dans le téléphone sonne, il y en aura. Hein. Il faut qu'on soit tous accrochés, j'allais dire, et qu'on y pense vraiment pour discuter autour de cette table et en parler jusqu'à 20h. Tiens, je vais commencer par vous, Martine Lombard. Bonsoir. Vous
êtes bonsoir.
Professeur émérite de droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Sorbonne. Vous avez notamment écrit L'ultime demande. C'était chez Liana Lévy en 2022. Il y a Christine Pires-Beaune. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée socialiste du Puy-de-Dôme. Vous êtes première questeuse de l'Assemblée nationale. On dit questeuse ?
Questeur.
Bah, très bien. Agnès Firmin-Lebaudeau, bonsoir. Vous êtes députée Horizon de Seine-Maritime et ancienne ministre de la Santé. Merci à toutes les trois et à toutes les deux d'avoir lâché l'hémicycle aussi pour venir nous voir. C'est un point important. Alors, je veux pas, au cours de ce téléphone sonne, qu'on essaye de déterminer si les gens qui nous appellent seraient potentiellement éligibles, parce que là, ça nous entraîne dans des choses dans lesquelles on veut vraiment pas rentrer. Mais ce qui est intéressant, c'est souffrance physique ou souffrance psychologique, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, et qu'est-ce que ça nous raconte, ça ? Je vais commencer avec vous, Agnès Firmin-Lebaudeau, parce que je sais que c'est vous qui avez insisté sur le fait que seule la souffrance psychique ne doit pas suffire, en fait.
Oui. C'est toujours difficile de répondre à ces questions-là, et on voit bien que la question que nous pose l'auditeur... Et
on n'essaiera pas de répondre à non, Olivier, voilà, principalement, pour lequel on a une réponse, évidemment.
Ce que je voulais dire, et d'ailleurs, les propos d'Olivier sont intéressants, parce qu'ils englobent tout à fait notre débat. L'amendement qui a été porté et qui a été voté fait en sorte que les maladies psychologiques ou psychiques, à elles seules, ne suffisent pas à demander et à être éligible à l'aide à mourir.
Et donc on ne parle pas des maladies, parce qu'il y a une différence, et c'est bien ça d'ailleurs où les choses deviennent très ténues, on marche sur une ligne de crête. Il y a les maladies psychologiques d'un côté qui sont effectivement un cas à part, et puis il y a les maladies qui sont incurables, mais peut-être pas à une échéance qui est extrêmement proche, mais qui provoquent effectivement des douleurs psychologiques terribles.
Alors il y a les douleurs pareil. Qui sont dues à une maladie, et c'est autre chose que la maladie elle-même. Donc c'est bien là toutes les difficultés, j'allais dire, d'écrire la loi, d'écrire la loi, et de ne pas, j'allais dire, selon là où on souhaite aller mettre le curseur, inclure ou exclure. Je pense que l'intérêt et la difficulté sur les souffrances psychologiques ou psychiques, c'est que elles sont la suite d'un effet, enfin de critères cumulatifs. Il faut d'abord que la maladie ait un pronostic vital, que le pronostic vital soit engagé, que la maladie soit incurable, et qu'il y ait des souffrances physiques et psychologiques. J'insiste sur le « et » parce que
j'entends ce que
le « et » est induit par le fait que seule la souffrance psychologique ne soit pas éligible, ne rende pas le malade éligible à la loi.
Christine Pires-Beaune, vous y avez passé du temps hein, sur ces parties-là à l'Assemblée, parce que ça vaut le coup quand même d'y passer beaucoup de temps, d'y passer beaucoup d'heures. Il y a eu trois jours pleins, mais c'est vrai que là on est sur la ligne de crête, et on se dit parfois que additionner ces cinq critères va beaucoup restreindre le champ en fait des patients qui peuvent être concernés ou pas. Vous allez nous le dire.
Oui, d'abord une pensée également pour Olivier, puis pour tous ceux qui, toutes celles qui nous écoutent et qui suivent nos travaux et qui se demandent en fait, est-ce qu'on est en train de légiférer pour moi ou pas ?
Oui, c'est voilà. Exactement ça que je demande.
Alors moi, je ne suis pas médecin et effectivement, on ne répondra pas à ces questions-là. Mais moi, je m'étais battue pour qu'on ait le ou psychologique. Parce qu'en fait, ça renvoie à la question de l'existence par rapport à la vie. Est-ce qu'on est en train de parler, est-ce que vivre, c'est simplement avoir le cœur qui bat, ou est-ce que vivre, c'est mener une existence telle qu'on a envie de la mener ? En fait, ça renvoie à ces questions-là. Et moi, je n'étais pas pour qu'on rajoute effectivement l'amendement qui a été voté hier, je crois, qui rajoute à l'article 4, qui est celui des conditions cumulatives, qu'une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir. Voilà. C'est, pour moi, c'est difficile d'avoir restreint encore ces conditions que je trouvais déjà très restrictives par rapport à ce qui peut notamment exister ailleurs, mais surtout par rapport à ce qu'on peut... au cas auquel on peut être confronté, parce que depuis le début de cette loi, donc depuis déjà 3 ans, vous vous doutez bien qu'on est abreuvé de témoignages les uns plus poignants que les autres.
C'était vers la juriste que j'ai envie de me tourner, Martine Lombard. Le « ou » et le « et » a une importance fondamentale.
Oui, une grande importance, effectivement. En Belgique, on dit souffrance physique ou psychologique, par exemple. Et il n'y aurait qu'en France que l'on dirait souffrance physique et psychologique, sachant que Alors, parlons-en du modèle français.
Si alors, du coup, je vais la devancer, cette question, et je vois Alice Cachener, que je n'ai pas présentée. Alice, pardon, vous êtes du service santé de France Inter, évidemment, c'est vous qui suivez ces sujets pour France Inter. Mais justement, puisque vous aviez commencé là-dessus, Martine Lombard, effectivement, est-ce qu'on est en train d'inventer un modèle à la française?
Oui,
en
clairement.
Fait, qui n'existe nulle part ailleurs.
Clairement, on est en train d'inventer un modèle le plus restrictif des pays d'Europe, du moins de ceux qui ont dépénalisé l'aide à mourir. Le plus restrictif en ce sens qu'en Europe, il y a un cœur de trois conditions qui doivent toujours être remplies et qui seront aussi demandées en France. D'abord, et c'est le plus important, une demande claire, libre et éclairée de la part du malade.
Bien sûr.
Deuxième condition, des souffrances réfractaires au traitement ou insupportables. Et troisième condition, une affection grave et incurable. Ça, c'est le cœur et on le trouve en France comme en Europe. Mmh. En revanche, la France a ajouté la condition d'un pronostic vital engagé. Et pas seulement d'un pronostic vital engagé, mais d'un pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale. Mmh. Et compte tenu des précisions qui ont été données sur la phase avancée, on peut un peu s'inquiéter.
Et alors, c'est vous la grande neutralité, Alice Cachener, là-dessus. Est-ce qu'on sait la définir? Pardon, hein, parce que c'est pas facile cette question.
J'ai l'impression que je vais répondre, je sais pas.
Bah oui, mais vous avez le droit. Vous, en suivant les débats, et vous êtes vous aussi une personne lambda, si ce n'est que vous vous y connaissez en la matière, est-ce qu'on sait le définir, en fait, la phase avancée? Est-ce qu'on sait dire ce que ça veut dire, une phase avancée? Parce qu'on a enlevé ce qu'il y avait dans le tout démarrage qui était à court ou moyen terme.
Pronostic vital engagé à moyen terme.
On l'a enlevé parce que je comprends qu'on ne sait pas ce que c'est, court ou moyen terme, c'est très compliqué.
C'est ça, donc, les médecins estimaient qu'il n'y avait pas de consensus médical pour parler de pronostic vital engagé à moyen terme. Moyen terme, ça veut dire quoi? Est-ce que je vais mourir, le patient va mourir dans un mois, cinq mois? C'est très individuel, en fait. Chaque patient, chaque cas est particulier. Donc, c'est la notion de phase avancée qui a été retenue. Et la définition que l'on a maintenant, en tout cas, c'est celle de la Haute Autorité de Santé qui a tranché et qui a donné une définition de la phase avancée, qui est donc qui précise, en fait, qu'on rentre dans un processus irréversible. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'un malade de Charcot, il va rentrer là-dedans? Ça dépend, peut-être, parce qu'il y a des malades de Charcot pour qui, en fait, la maladie évolue très lentement. Pourtant, le pronostic vital est engagé.
Forcément, on va y venir sur Charcot, parce que c'est un peu l'exemple presque emblématique. Je voudrais qu'on y aille sur des cas très concrets. Vous vous souvenez évidemment tous d'Anne Behr. Moi, je m'en souviens très bien, parce que c'est ici qu'elle a fait sa dernière interview. Avant de partir, je crois que c'était en Suisse ou en Belgique, je ne me souviens plus, peu importe. Elle avait dit... moi, je veux partir avant d'être totalement dépendante. Est-ce que on sait déjà, en regardant la loi, si oui ou non, Anne Behr rentrerait dans le cadre de la loi? On sait dire ça ou pas? Silence autour de la table, mais je peux comprendre.
Vous avez le droit de réfléchir.
Non, je réfléchis.
Je
crois pas, mais...
Ben voilà.
Anne Behr s'est effectivement exilée en Belgique et je me souviens qu'elle avait dit actuellement j'ai l'autonomie d'un enfant et je suis arrivée au seuil de mon acceptation. C'était
exactement
les mots de Anne Behr. Je pense qu'elle ne rentrait pas au moment où elle le souhaitait. Elle ne rentrait pas dans l'aide à mourir telle que malheureusement elle a été définie aujourd'hui. Voilà. Donc elle se serait exilée.
De toute façon,
si la législation avait été votée.
Et de toute façon, donc dans un cas comme ça, Agnès Firmin-Lebaudeau, comment on fait pour le fixer? Parce que, effectivement, Alice a raison, le pronostic vital, il est engagé de toute façon. Donc au fond, c'est la loi qui va décider ce qui est le supportable pour un malade atteint par cette maladie-là.
C'est pas la loi qui définit ce qui est le supportable pour le malade. La loi, elle définit, des critères, elle définit un cadre. Moi, je le dis et j'assume, je regrette que nous n'ayons pas laissé le moyen terme. Comme dans la loi Claeys-Leonetti, il y avait le court terme. D'abord, c'était l'effet miroir.
C'était très court terme, Claeys-Leonetti.
Claeys-Leonetti, c'est très court terme. Ouais. Et le
c'est
moyen terme...
quelques jours, si je puis me permettre.
Quelques jours. Voilà. C'est quelques heures à quelques jours. Très clairement, d'abord, c'est quand même le Conseil national d'éthique qui a parlé de moyen terme. Régis Aubry, qui a présidé les travaux de la HAS était lui-même rapporteur de l'avis du Conseil d'éthique qui parlait du moyen terme. Il y a des pays qui ont défini le moyen terme. Moi, je pense qu'il était important de laisser moyen terme dans la loi parce qu'on voit bien que sur ce sujet-là, le malade qui fait la demande, il est en colloque singulier avec le médecin, et vous l'avez dit très justement. Et donc, partout où on a laissé le moyen terme, on le sait très bien. Le moyen terme, il a été défini à 3 mois, 6 mois, 12 mois. C'est ça le moyen terme, c'est ce que ça veut dire. Mais se dire que mettre dans la loi 6 mois, c'était stupide. C'est dire que moyen terme, on sait ce que ça veut dire. Les médecins savent eux-mêmes ce que ça veut dire. C'est bien la relation et le colloque singulier entre le malade qui fait la demande et le médecin qui est en mesure d'examiner.
Je vous ai vu, Martine Lombard, mais je voudrais d'abord qu'on écoute Anne qui est à Lille. Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, moi je voulais témoigner, enfin ne pas discuter sur les termes des critères d'accessibilité à l'euthanasie ou au suicide assisté, mais sur justement le fait que la loi française, là, prévoit non pas une euthanasie, mais un suicide assisté. Et en fait, moi j'ai accompagné mon papa il y a 2 ans en Belgique, où il a bénéficié d'une euthanasie parce qu'il était atteint d'un cancer du pancréas. Donc on savait qu'il était condamné. Et donc nous l'avons accompagné avec mes frères et sœurs et avons donc assisté à son décès. Et en fait, en Belgique, c'est une euthanasie. Ça veut dire que ce sont les soignants qui font l'acte, qui injectent déjà un premier produit qui est anesthésiant. Donc le patient s'endort paisiblement. Et ensuite, un deuxième produit qui est létal, c'est du curare. Après avoir évidemment redemandé au patient s'il était toujours d'accord, s'il souhaitait toujours mourir. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez paisible. En tout cas, pour nous, ça s'est passé de façon très, très paisible, parce que notre papa était tout à fait déterminé. Et je trouve que refuser aux gens cette euthanasie et exiger d'eux qu'ils s'injectent eux-mêmes un produit létal, je trouve ça très violent parce que ce sont des gens qui sont déjà dans une situation d'extrême faiblesse et on leur demande de devoir encore faire preuve de plus de courage que ce à quoi ils ont dû déjà faire appel. Je trouve ça et je trouve que en fait de la part des soignants, c'est les abandonner au bout du chemin. On les amène sur un chemin qui va les amener à la mort. On leur fournit un produit létal et après on les regarde, on leur dit allez maintenant, allez-y, débrouillez-vous tout seul. Et à la limite, je trouve ça même un peu hypocrite parce que on leur fournit le produit et après on croise les mains, les bras et on leur dit allez-y, on vous regarde. C'est ne pas aller. Pour moi, c'est un soin de fin de vie, c'est un soin que le patient doit offrir à que le soignant doit offrir au patient. C'est encore l'ultime preuve de bienveillance dont les patients peuvent faire preuve. Dont les soignants peuvent faire preuve.
Vis-à-vis des patients, Anne, merci.
Vis-à-vis des patients.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Martine Lombard, là aussi, j'ai besoin de la juriste, en fait, parce que c'est vrai que ce que dit la loi, c'est l'auto-administration, l'exception, c'est l'accompagnement. Est-ce que ça aussi, ça fait de nous une spécificité ou pas du tout ?
Oui, en fait, on ressemble maintenant à l'Australie. Où il existe en effet ces deux possibilités. Alors en Australie, en plus, il faut avoir une autorisation administrative pour passer à l'administration par un soignant. Et en général, les malades meurent avant qu'arrive l'autorisation administrative. Mais le témoignage de Anne me paraît très symptomatique de ce qui se passe, par exemple, dans l'état de l'Oregon, qui est souvent considéré comme un modèle. C'est un état américain où on admet le suicide assisté depuis 1997. Et si l'on regarde ce qui se passe en Oregon, notamment la durée nécessaire aux malades pour décéder après avoir bu ou tenté de boire un verre comprenant une substance létale, cela va de 2 minutes à 104 heures.
Oh, oula.
Parce que il est parfois très difficile de boire le verre jusqu'au bout.
Alors, oui.
Et si l'on n'a bu qu'une partie, évidemment, ça, c'est pire.
Alors, je vais vous poser la question à toutes les deux. Est-ce que la loi l'a déjà dit ou est-ce qu'on en discute encore? Est-ce qu'effectivement, on est absolument sûr que c'est un verre que l'on boit? Parce qu'en discutant avec Alice tout à l'heure, en préparant cette émission, moi, la première chose qui m'est venue, c'est qu'est-ce que je fais si j'en renverse la moitié? Je le dis, mais très honnêtement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais si j'en renverse la moitié? Donc, est-ce qu'on boit quelque chose? Est-ce que vous avez imaginé qu'on demandait au patient d'injecter quelque chose dans son goutte-à-goutte, pour dire les choses? Comment ça marche pour l'instant? L'une ou l'autre, Christine Pires-Beau, mais essayer, Agnès Firmin. Bah, allez-y, Agnès Firmin.
Assez brièvement, pour répondre d'abord à Martine Lombard, le modèle français que nous avons imaginé, il est le fruit de travaux nombreux, transpartisans, mais aussi de ce que nous avons vu à l'étranger. Et le modèle qui est le nôtre, c'est à la fois la synthèse de ce qui existe en Oregon, de ce qui existe en Suisse, et nous ne sommes pas allés en Australie parce que c'était vraiment très très loin. Mais d'abord, je le dis, l'auto-administration, moi j'entends le message d'Anne et je comprends, mais c'est à la fois la volonté de respecter la liberté du malade, mais aussi de respecter la liberté du soignant. Et la volonté, c'est 85% de nos concitoyens souhaitent décéder à domicile, c'est de pouvoir embarquer un maximum des médecins qui vont accompagner, parce que c'est là la spécificité, il y aura bien un professionnel de santé à domicile.
Mais on peut toujours trouver un médecin qui dit oui, si votre infirmière dit non, on en trouve une qui dit oui, vous voyez ce que je veux dire.
Non, mais
je comprends pour l'infirmière.
Non, mais accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire mais qu'ils ne veulent pas faire le geste. Le dernier sondage est intéressant. Les professionnels de santé sont en train d'évoluer très fortement en acceptant, en disant oui, nous voulons maintenant l'aide à mourir. Mais plus de la moitié d'entre eux disent je veux bien si je n'ai pas à faire le geste.
Non, et pour répondre, c'est 58%.
58% sont d'accord pour
des soignants.
Oui,
alors
70%. Alors celle qui va trancher sur les chiffres, c'est Alice Cachaner.
58% disent oui, 70% disent je veux bien accompagner si je n'ai pas à faire le geste. Ça fait 3000 médecins entre les deux, j'ai fait les calculs. Et répondre sur si ça se passe mal, là où nous avons regardé un petit peu tout ce qui se passait ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a bien un professionnel de santé à domicile qui est là pour accompagner le malade. Et si ça se passe mal, il y aura une, j'allais dire, parce que vous avez pris l'exemple, ça ne marche pas, il y aura une dose de secours et il y aura un professionnel. Et il y aura un professionnel qui sera là.
Donc c'est vraiment quelque chose qu'on boit, je dis ça vraiment.
Je crois que la Haute Autorité de Santé définira vraiment le mode d'administration. Mais c'est vrai que le fait d'avaler est le système, j'allais dire, le moins traumatisant pour le malade.
Mais c'est
la Haute Autorité qui définira.
Est-ce que c'est, parce que Martine Lombard nous parlait de l'Oregon avec d'abord effectivement un produit qui endort et puis un produit qui tue. Nous aussi, on est parti là-dessus ou on est parti sur un produit qui tue un seul produit, en fait? Pardon, c'est très trivial cette question.
Je pense que ce sera un cocktail létal à base de plusieurs produits qui à la fois endorment et endorment définitivement.
Christine Pires-Beau, je vous laisse répondre et puis Adrien nous attend au standard.
Oui, parce que c'est un point très très important. Moi, je comprends Anne et je suis d'accord avec elle à 100%. Voire à 200%, parce que quand on dit on base ce texte sur la liberté du patient. Oui, mais la liberté, on ne lui la donne pas jusqu'au bout et on ne lui la donne pas sur la méthode. Or, que ce soit de l'auto-administration ou de l'administration par un soignant, le résultat est le même. Donc, j'essaie de comprendre quels sont les arguments qui ont fait qu'on est imposé l'auto-administration et autoriser l'administration par un médecin à titre exceptionnel. Et moi,
Est-ce que vous dites qu'on va reculer le geste, en fait? C'est ça que vous
en fait, vous non, dites je suis en train de me dire, on veut bien leur donner, en fait, un peu de liberté. Vous avez voulu mourir, ok, bah débrouillez-vous maintenant. Vous devez avoir ce courage-là. Et c'est les mots que j'avais employés il y a un an auprès de la ministre, parce que je ne comprends pas, mais sincèrement, je ne comprends pas pourquoi on n'autorise pas la liberté de choix. Un médecin, un infirmier. Un médecin, un infirmier, parce que, y compris pour le médecin traitant qui suit ce malade depuis des années et des années, peut-être qu'il a envie de le suivre vraiment jusqu'au bout. Il n'aura pas le droit de le faire si la personne est en capacité physique de s'auto-administrer le traitement.
La raison pour laquelle j'ai parlé du proche, c'est que ça a été un moment, ça a été dans la liste, on va dire, et très vite enlevé. D'ailleurs, personne ne le fait autant que je sache. Là, pour le coup, personne ne laisse à un proche le soin, si j'ose dire, de faire ce geste-là. Alice et puis Martine.
Sauf que ça existe. C'est clandestin.
Oui. Alors voilà, ça existe clandestinement.
Oui. Je voulais juste ajouter une précision, c'est qu'en effet, le libre choix entre suicide assisté et euthanasie, c'est bien ce que préconisait, ce que recommandait en grande majorité les citoyens de la Convention citoyenne qui a rendu donc ses conclusions, c'était en 2023, printemps 2023.
Martine Lombard et puis Adrien.
Oui, il y a vraiment une préférence des malades pour surtout pas l'auto-administration, l'administration par un soignant. Et quand on leur laisse le choix, c'est le cas aux Pays-Bas, c'est le cas au Canada, mais alors, massivement, ils choisissent l'administration par un soignant pour éviter les risques qu'on évoquait tout à l'heure, du verre à demi-bu. Cela dit, on pourrait trouver quand même une solution, un peu de compromis, comme cela se passe en Suisse de plus en plus. C'est-à-dire, non pas obliger à boire le contenu d'un verre, mais poser un cathéter et que ce soit le malade lui-même qui tourne la molette pour une perfusion. Mmh. Et à ce moment-là, on peut considérer que c'est le malade qui sait auto-administrer le produit létal. Et ça, c'est quand même moins risqué pour le malade.
Adrien nous attend. Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
On vous écoute.
D'accord. Alors je suis infirmier libéral dans une ville bretonne. Et effectivement, j'ai accompagné des patients en fin de vie. Donc dans le cadre actuel, avec en partenariat avec des HAD, et souvent aidé par les équipes de soins palliatifs. Et parfois, un exemple me revient en tête, une dame qui souffrait d'un cancer du pancréas en phase terminale, qui était très douloureuse, qui n'était plus soulagée, et qui a été accompagnée telle que la loi nous y autorise actuellement, donc avec des doses de morphine et d'hypnovel qui n'étaient pas suffisantes pour la soulager. Ça a été vécu comme une lente agonie par elle, par son mari, par nous, l'équipe soignante. On l'a vu arrêter de manger, arrêter de boire, et se dégrader très doucement alors qu'elle était demandeuse. On l'aide et la loi ne nous y autorisait pas à l'époque.
Et donc aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que vous faites partie de ces infirmiers qui non seulement attendent la loi, mais qui surtout êtes prêts à faire le geste ou pas ? Sur le geste, vous, l'infirmier, vous dites quoi ?
Alors moi, je suis prêt à poser un cathéter et que le patient qui est en capacité actionne lui-même le mécanisme pour libérer le produit, que ce soit une molette, pousser une seringue ou quoi ou qu'est-ce. Mmh. Et pour les patients qui sont dans l'incapacité et de communiquer et de faire le geste, je suis prêt, moi, à passer le produit à partir du moment où la prescription a été signée par un médecin, enfin par toutes les autorités nécessaires. Mmh. Pour moi, c'est un soin qui doit, qu'on doit effectuer. C'est un soin comme les autres, même s'il a une symbolique excessivement importante, ça reste un soin pour préserver l'humanité, finalement, des gens jusqu'au bout.
Merci beaucoup, Adrien, pour votre témoignage. Comme quoi, vous voyez, il y a toujours un intermédiaire qui peut être un intermédiaire, effectivement, peut-être plus moins traumatique, en fait, pour chacun.
Clairement, il ne fera pas le geste. Mm-hmm. Clairement, il l'a clairement exprimé. Mais moi, je crois aussi aux nouvelles, j'allais dire, technologies qui vont arriver. Les stylos qui sont voilà, je pense que dans auto-administration, il ne faut pas résumer ça à la substance qu'on boirait. Je pense que l'exemple donné avec la molette qu'on tourne, le stylo auto-injectable qu'on pourrait nous-mêmes activer. Voilà, je pense que l'idée de l'auto-administration, et ça vient clairement d'être illustré, c'est le professionnel qui souhaite accompagner, mais qui, au bout du bout, ne voudra pas faire le dernier geste. Alors, ça vient clairement d'être exprimé.
Ouais. Adrien, puisque vous êtes encore là, vous êtes OK pour la molette. S'il faut faire une injection, est-ce que vous dites non ou pas ?
Non, absolument pas. Voilà. Absolument pas. Je dis, le principe, si le patient souhaite faire le dernier geste, est en capacité de le faire, bien on ne peut pas lui retirer ça, ça lui appartient. Par contre, s'il n'est pas en capacité, je ne suis absolument pas opposé au fait de faire le geste.
J'ai entendu. C'est quoi votre question, Christine Pires-Bois ?
S'il est en capacité physiquement et qu'il ne veut pas parce qu'il ne se sent pas, est-ce que vous accepteriez de le faire ?
Je pense qu'il faut sursoir à l'injection, dans ce cas-là. C'est qu'il y a un nouveau paramètre qui entre en jeu, et c'est qu'il n'était peut-être pas prêt à le faire, finalement, et qu'au moment de sauter l'obstacle, entre guillemets, il ne veut plus. Et dans ce cas-là, au contraire, il faut sursoir. C'est important.
Merci beaucoup, Adrien. Vraiment, ce qu'il faut rappeler aussi, quand même, à tous les gens qui nous écoutent, et ça, pour le coup, ça existe dans tous les pays, c'est que jusqu'au dernier moment, y compris jusqu'à la dernière seconde, on a le droit de faire marche arrière, évidemment. Et on est d'accord, Martine Lombard, que partout, c'est comme ça que ça existe.
Partout, dans tous les pays, c'est au moins par 3 fois que le malade doit dire qu'il souhaite une aide à mourir.
Et est-ce qu'il doit le dire partout ?
Il doit le dire même à la dernière minute. Mmh. Au moment de l'acte final, on lui demande encore, non pas est-ce cela que vous acceptez, est-ce cela que vous demandez ? Mmh. Et il doit répondre, oui, c'est cela que je demande.
Qu'est-ce qui se passe quand, parce que pour le coup, là aussi, il y a beaucoup de questions autour de ça. On a bien compris qu'il fallait que la demande soit verbalisée, qu'il fallait que ce soit très clair et qu'elle allait être redemandée, que même lorsque le protocole est accepté, il y a 48 heures encore à attendre. Il faut que tout ça soit multiverbalisé, si je puis dire. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un patient a du mal à s'exprimer, a du mal tout simplement à parler? Est-ce qu'on considère que le fait d'avoir réussi à le dire au moins une fois, voire l'avoir écrit, et que tout le monde en soit témoin, ça suffit? Ou est-ce que si la verbalisation devient compliquée, c'est plus compliqué également pour finir le protocole?
Alors moi, je veux bien intervenir parce que ça pose la question en fait des directives anticipées. Aujourd'hui,
est-ce qu'elles sont jetées, les directives anticipées? Est-ce que je jette mes directives anticipées, Christine Pirelli?
Alors, les directives anticipées, moi, j'ai écrit les miennes il y a très quelques jours pour tout vous dire. Il faut maintenant les déposer, mais je vais vous prendre un exemple pour bien comprendre. Si, comme moi, vous écrivez dans vos directives anticipées, en cas d'accident grave qui me plonge dans un coma, je veux avoir accès à l'aide à mourir. Que ces directives anticipées, vous les avez écrites il y a 10 ans, vous les avez réitérées tous les ans. Donc, au moins à 9 occasions, vous avez écrit la même chose. Si cette situation-là arrivait avec la loi telle qu'elle est votée, je ne pourrais pas avoir accès à l'aide à mourir. C'est le deuxième point pour moi qui fait que, évidemment, que je voterai cette loi, parce que elle permet de répondre à quelques demandes, mais elle ne permet pas, et quand en tout cas moi je vote une loi, je me dis est-ce que je réponds quand même à la problématique et la question que se pose, ce que posent les gens. Est-ce que cette question est légitime ou pas? Je considère que les directives anticipées, c'est une bonne chose. Elles sont très peu, elles existent très peu en France, 12% à Il faudrait que tout le monde puisse réfléchir, non pas faire, mais réfléchir aux directives anticipées. Et quand elles existent pour le cas que j'évoquais, comme celui-là, elles devraient rentrer en ligne de compte. Elles ne sont absolument pas prises en compte dans le texte que nous sommes en train de voter. Et pour le cas que vous avez cité, je pense qu'effectivement, il ne pourrait pas, mais je pense que Madame Lombard est plus experte en termes de pour répondre à cette question. Mais effectivement, à trois fois minimum, par trois fois minimum, vous devez être en mesure de dire je veux une aide à mourir.
Je voudrais quand même rassurer ceux qui nous écoutent, même en l'absence de directives anticipées prises en compte, car effectivement, le choix là, du législateur, c'est de ne pas prendre en compte les directives anticipées. Même comme ça, vient d'être voté un amendement qui prévoit bien que si vous ne pouvez plus vous exprimer, on prendra en compte toutes les formes d'expression possibles que vous pourriez manifester. Donc, tout de même, même si vous ne pouvez plus parler, même si vous ne pouvez plus écrire, il y aura encore des moyens de savoir ce que vous voulez. Je tiens à le dire parce que, comme il n'y aura pas de place pour les directives anticipées, on peut le regretter, mais c'est comme ça.
Alors, cela dit, on a fait beaucoup d'émissions sur les directives anticipées, et c'est même très compliqué, de toute façon, en dehors de l'aide à mourir, telle qu'on est en train d'en discuter, de prendre en compte les directives anticipées des patients. Catherine nous attend. Bonsoir, Catherine.
Oui, bonsoir. D'abord, pour les directives anticipées, pour avoir travaillé de longues années en soins palliatifs, les directives anticipées, c'est des choses qu'on rédige bien avant d'être confronté dans la situation. Donc ça, c'est une chose qui est très très importante. Moi, j'ai vu des patients qui avaient décidé certaines choses, et si elles sont prises en compte par les soignants, je peux vous garantir que les médecins les étudient quand elles existent. Mais sauf que les patients ont le droit de changer d'avis. C'est très très important, les patients au dernier moment ont le droit de changer d'avis. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que on a le droit d'avoir envie de mourir à un moment où on va pas bien et de ne pas avoir envie de mourir profondément. Et ça, je trouve que cette loi oublie ça. On prend un peu au pied de la lettre quelque chose qu'on va dire dans une souffrance, dans un moment de souffrance épouvantable. Et je veux bien réfléchir à cette loi, mais à partir du moment où on s'est donné tous les moyens, mais absolument tous les moyens, de faire en sorte que les patients soient soulagés, que ce soit pour des souffrances morales, que ce soit pour des souffrances physiques, au maximum. Et je pense qu'on en est encore très très loin en France actuellement. Et que vraiment, c'est la première chose sur laquelle il faut réfléchir et sur laquelle il faut s'acharner, c'est que tout le monde, tous les soignants, tous les médecins soient au courant de la manière dont il faut, la meilleure de soulager les patients quand ils sont arrivés à des souffrances qui sont extrêmement difficile. Et je regrette que ça ne soit pas fait encore.
Merci voilà. Catherine, merci pour votre témoignage, Agnès Firmin-Lebaudeau.
C'est l'objet, ça me permet de remercier Catherine sur le travail formidable que font tous les acteurs qui travaillent en soins palliatifs.
Les psychologues en soins palliatifs.
L'objet des travaux qui ont été menés, le modèle français, c'est bien un renforcement nécessaire des soins palliatifs, et ça passe par la formation de tous les professionnels, sur les soins palliatifs. C'est une absolue nécessité et nous en sommes tous d'accord.
Et d'ailleurs, l'article 8 qui devait renforcer la formation des professionnels de santé sur la culture palliative, la médecine palliative, a été supprimé.
Oui, mais ça ne relève pas de la loi. La formation ne relève pas de la loi. Il a été supprimé parce que certains voulaient ne pas accepter la formation à l'aide à mourir, ce qui, à mon sens, est une erreur. Mais dire aussi que, moi, sur les directives anticipées, j'y suis farouchement opposée, parce qu'on est bien sur la volonté libre et éclairée du malade, et qu'on sait très bien que jusqu'au dernier moment, on peut, et on doit avoir la possibilité de dire non. Et c'est aussi pour éviter ce qui a été reproché par certains détracteurs qui ne souhaitent pas que la loi évolue, et je respecte cette position, que des pressions extérieures puissent avoir lieu. Et puis, effectivement, on peut rédiger ces directives anticipées en bonne santé.
En général, on les rédige en bonne santé.
Mais le jour où vous êtes confronté à la maladie, celui qui a la certitude sur la façon dont il réagit, il a de la chance. Moi, je ne sais pas. Par contre, je sais ce que j'aimerais. C'est avoir le choix.
Martine Lombard, Catherine nous dit qu'elle a besoin d'être sûre que tous les garde-fous sont là. Est-ce que vous avez le sentiment, dans ce qui est en train d'être discuté aujourd'hui, qu'il manque des garde-fous ou que tous les garde-fous sont là ?
Il y a en tout cas un garde-fou essentiel qu'il faut que tout le monde intègre bien. C'est que le médecin qui recevra une personne malade, qui demande une aide à mourir, devra d'abord l'informer de l'existence de ce que sont les soins palliatifs et s'assurer qu'il puisse y accéder de manière effective. Autant dire que jamais une aide à mourir ne sera le substitut du fait de soins palliatifs absents.
Bien sûr.
En revanche, comme l'a montré Adrien tout à l'heure, il y a des souffrances réfractaires au traitement, y compris palliatifs. Et donc, malheureusement, parfois, cela ne suffit pas. Je rends hommage, moi aussi, aux soignantes de soins palliatifs, mais qu'ils se rassurent. La loi ne portera pas atteinte en créant un substitut aux soins palliatifs.
Pour autant, vous dites quelque chose d'intéressant, Martine Lombard. Il y a quand même des gros manques en ce qui concerne les soins palliatifs, et c'est rappelé de nombreuses fois lors des débats. Il y a 19 départements où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. 50% des Français qui devraient avoir accès aux soins palliatifs qui n'y ont pas accès. Il y a des gros manques, même s'il y a des moyens, en effet, qui sont mis sur la table avec la stratégie décennale.
Est-ce que je peux vous répondre là, exactement que la même comme l'a fait Agnès Firmin-Lebaudeau?
Pardonnez-moi, mais en une poignée de secondes.
Il faut fermer surtout les médecins généralistes. C'est ça qui manque le plus. Des unités de soins palliatifs, évidemment, il en faut partout. Mais même là où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs, il y a des soins palliatifs en hôpital. Malheureusement, la France met trop l'accent sur l'hôpital et pas assez sur les médecins généralistes.
Vous avez raison. En attendant, vous allez tous discuter. Jusqu'à quand, là c'est fini le
C'est 27... pas fini, on retourne là ce soir, allez, demain, allez, peut-être samedi, peut-être
voilà,
dimanche.
Retournez-y, il y aura effectivement...
Et on va voter mardi.
Voilà, il y aura passage au Sénat aussi, etc. On n'a pas fini. Ça veut dire qu'il y aura d'autres moyens d'y revenir et d'en reparler au téléphone. Ce jour, merci infiniment toutes les trois et à vous tous qui nous avez appelés.